Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Big Five. Le PSG n'a pas tremblé face à la Real Sociedad, victoire 2-1, qualification validée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, grâce notamment à l'irremplaçable Kylian Mbappé. On va revenir sur ce match et surtout se demander si le PSG est plus fort aujourd'hui qu'il y a 3 mois. C'est ce qu'avait annoncé Luis Enrique à la fin de la phase de poule. Alors l'entraîneur parisien a-t-il eu raison ? Contre la Real Sociedad Paris a complètement maîtrisé les débats. Quels enseignements peut-on en tirer ? Que penser de cette animation offensive inédite avec Barcola à droite et Dembélé dans l'axe ? Mbappé lui a retrouvé son côté gauche avec l'efficacité tant attendue. Plus largement, on va se demander si Paris ressemble enfin à ce que Luis Enrique essaye de mettre en place. Et avec moi aujourd'hui, deux habitués de Big Five lorsqu'il s'agit du PSG, José Barroso et Dan Pérez. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous avez le casting de l'année. Maintenant, on peut commencer. Le Paris Saint-Germain va donc retrouver les quarts de finale de la Ligue des Champions 3 ans après sa dernière participation. Il le doit en grande partie à son capitaine, auteur d'un doublé à Saint-Sébastien, Kylian Mbappé, logiquement élu homme du match. On ne va pas s'étendre ici sur les tumultes des derniers jours entre l'attaquant parisien et son entraîneur Luis Enrique. Mbappé était bien titulaire face à la Real Sociedad et comme souvent, il a répondu aux polémiques en se montrant décisif sur le terrain. José, tu étais au stade Anoeta. Qu'est-ce que tu retiens de l'attitude générale de l'attaquant parisien pendant la rencontre ?
Alors, on sait que dans ce type de contexte, un des défis, c'est d'arriver à se remettre à fond dans le sportif. Lui est assez fort pour ça. Il a connu pas mal de tumultes, comme tu dis, au fil de ses 7 ans, bientôt 7 ans au PSG. Et c'est effectivement une de ses qualités, c'est d'arriver à se mettre de côté tout ce qui peut passer par la tête, tout ce qui peut polluer un cerveau. Pour se focaliser sur l'essentiel. Et il est assez fort pour ça. Alors, des fois c'est pas, il manque d'efficacité ou ça marche pas. Mais il arrive quand même à faire abstraction d'un contexte souvent pesant ou compliqué, y compris, pour plein de raisons, y compris avec des coéquipiers, etc. Et donc là, il a fait son match et il était très attendu, une fois de plus. On en parlera, mais la Real Sociedad a aussi aidé parce que. Ils n'ont pas fait le match qu'on attendait. En tout cas, moi, j'étais très déçu de leur match. Et donc, du coup, lui a répondu présent avec brio, avec 2 buts magnifiques. Voilà.
Et Dan, toi, qu'est-ce que tu retiens de son match en particulier sur le plan tactique ?
Déjà, avant de parler du plan tactique, c'est la capacité à être décisif dans les grands matchs, là où on l'attend. Voilà, je vous ai en parlé. Tu peux avoir les meilleurs plans de jeu du monde et je pense que Luis Enrique avait très très bien préparé cette rencontre. Après, il faut le concrétiser. Voilà, il faut le concrétiser au tableau d'affichage. On a vu tellement de matchs de Ligue des Champions où le contenu ne correspondait pas forcément au score, au tableau d'affichage. Paris a laissé partir. On sait, il était dernier des joueurs qui avaient la grandeur, la dimension de cette compétition. Paris les a laissés partir pour des raisons qui s'expliquaient totalement. Il en reste un. Et il a été à la hauteur. Donc ensuite, tactiquement, on peut revenir sur son rôle. Et c'est toi qui me dis si on revient sur son rôle.
On peut le faire un tout petit peu plus tard. Je voulais te demander à José, est-ce que tu as eu le sentiment hier qu'il était dans une forme physique optimale ? Il n'a pas cherché à se préserver, parce qu'on le disait un peu sur la réserve depuis début février, le match contre Brest notamment.
C'est le cas. En fait, il a été touché. Alors, on n'a pas trop les détails. Le club communique très, très difficilement sur le sujet, mais on sait que ça a été plus compliqué que ce qui a été dit. Notamment, le genou a été touché, ce qu'on ne savait pas. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai appris ces dernières heures seulement. Et ça a été assez grave et en fait il aurait pu ne pas jouer même la Real, il aurait pu le match aller, je veux dire, pardon. Et donc depuis il se ménage un petit peu, en partie inconsciemment souvent, comme souvent après un coup comme ça, et je pense délibérément parce qu'il sait que la saison va être très longue, il a beaucoup d'objectifs importants et donc du coup un peu comme Luis Enrique qui lui aussi choisit ses matchs, on va dire, et ben la réalité c'est que Kylian Mbappé choisit un peu ses matchs, ce qui justifie aussi la gestion qui a été faite de lui au-delà de tous les aspects politiques sur lesquels on pourrait s'étendre, on pourrait faire un podcast entier là-dessus, mais et donc du coup physiquement moi je l'ai senti concerné, bien, on sent qu'il est mieux effectivement. Mais encore une fois, en face, c'était vraiment... j'attends de voir, quoi.
Et juste avant le match contre la Real Sociedad, tu avais écrit dans le journal qu'il avait organisé son quotidien autour de la C1. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement ?
C'est ça, c'est qu'en fait, il sait qu'il a l'euro, Il a les Jeux Olympiques, et puis bon, son objectif, c'est vraiment la Ligue des Champions cette saison. Vraiment. Donc, vu l'avance en championnat, il ne va pas prendre de risques, et donc il y a certains chocs, il ne va pas y aller. Donc, du coup, on dit qu'il est un peu moins impliqué, il est un peu moins bon, ouais. Mais c'est parce que c'est choisi. Ça peut paraître assez dingue de dire ça, mais c'est la réalité. Ouais.
Grâce à son doublé, il se place en tête du classement des buteurs de la Ligue des Champions. Ses réalisations à égalité avec le Munichois Harry Kane. Et à Saint-Sébastien, il évoluait donc sur le flanc gauche de l'attaque parisienne. Bradley Barcola, lui, se trouvait à droite. Et Ousmane Dembélé occupait une position hybride en fonction de si Paris avait le ballon ou non. Et je te laisse le soin, Dan, de nous expliquer le rôle de Dembélé précisément.
Disons que on en avait parlé, rappelle-toi, dans l'émission précédente sur le PSG, c'était il y a 2-3 mois, on avait parlé des problèmes du PSG à la relance et au niveau de son milieu de terrain. Disons que parmi les grands axes du plan de jeu de Luis Enrique, hier mardi à Anoeta, il y a la volonté de se réarmer à la relance et d'essayer de compenser les manques qu'il peut y avoir au milieu de terrain. Et donc, on a eu Beraldo, mais on y reviendra. Mais pour revenir sur Dembélé, ça a ajouté un joueur au milieu de terrain. Donc Dembélé jouait un peu intérieur gauche, comme disent les Espagnols. Donc c'est-à-dire 10, un peu décalé sur le côté gauche, capable de décrocher, mais avec beaucoup de liberté quand même, ce qui est assez rare pour Dembélé. Hein. En général, c'est un joueur qu'on fixe beaucoup dans une zone. Et donc ça permettait au PSG, notamment en début de match, je trouve, et c'est là la réussite de ce plan de jeu, d'annihiler complètement la volonté de la Real. Et le seul espoir de la Real, c'était quoi? C'était faire du pressing parce qu'ils sont bons là-dessus et profiter de l'ambiance d'Anoeta qui attendait que ça pour s'enflammer et essayer d'étouffer le PSG et puis embarquer le match dans quelque chose de compliqué, d'étouffant pour le PSG. Et en fait, en absorbant complètement, en annulant complètement ce pressing grâce à la position de Dembélé, alors parfois il était trouvé directement, mais parfois il attirait un milieu. Et ça libérait un autre milieu, hein, parce que les trois joueurs au milieu de la Real Sociedad étaient face à quatre Parisiens. Et la charnière de la Real Sociedad, du moins au début, et les défenseurs n'osaient pas sortir aussi loin sur Dembélé, ce qui fait que la charnière de la Real Sociedad était sans vis-à-vis. Traoré, le latéral droit, restait sur Mbappé. Et donc au milieu, les trois de la Real Sociedad étaient en difficulté face aux quatre du PSG, donc c'est-à-dire les trois milieux habituels plus Dembélé. Et en fonction des situations de jeu, bah, parfois ça libérait Zaïre Emery sur l'action où il frappe, parfois ça libérait Fabian Ruiz, parfois ça libérait directement Dembélé. Et juste pour finir, pour valider ce plan et pour réussir à exploiter cette supériorité-là au milieu, il fallait la qualité derrière. Et là, le retour de Nuno Mendes est une bénédiction. Et la démonstration de Beraldo, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un défenseur central aussi excellent à la relance dans un match de Ligue des Champions. En tout cas, moi, je n'ai pas le souvenir depuis peut-être Bonucci. Ensuite, oui, on remonte au Barça, Piqué, etc.
Ah oui, à ce moment-là.
Non, mais je le compare pas. Je dis pas que c'est un joueur de la
tempérée avec la position.
Je dis sur la performance, dans ce qu'il a produit, bien sûr, hein, c'est que la Real Sociedad, etc. Mais dans ce qu'il a produit, la capacité à casser le pressing, à repérer à chaque fois le joueur qu'il fallait cibler à la relance, quel était le joueur libre, sur quel joueur il fallait s'appuyer pour que le joueur en appui remis sur un troisième joueur libre face au jeu, ben, là, Beraldo a été exceptionnel, vraiment.
Ce qui confirme à quel point, comme tu disais tout à l'heure, Luis Enrique a vraiment préparé son match et c'est vraiment sa victoire à lui tactiquement. Alors après on peut discuter parce que
bien sûr,
le positionnement de Dembélé, ils y perdent beaucoup dans l'animation, etc. Mais enfin, tu perds un des aspects du jeu de Dembélé qui est fondamental dans les 1 contre 1, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été ça se traduit d'ailleurs très clairement sur les deux buts. Le premier but, c'est Dembélé qui est tout seul et donc qui sert Mbappé. Deuxième but, c'est Lee qui est tout seul, mais vraiment tout seul, c'est-à-dire totalement démarqué, parce que comme le dit Dan, ils sont en supériorité numérique, en surnombre, et donc du coup, ils arrivent à trouver un joueur libre qui tranquillement ajuste. Après, bon, il faut la finition, bien sûr, de Mbappé derrière, mais c'est vraiment la traduction concrète de ce plan qui a parfaitement réussi.
Et est-ce que ce plan, justement, met Kylian Mbappé dans les meilleures conditions, plus que lorsqu'il est en pointe, par exemple ?
Alors déjà, ça referme la longue parenthèse où, je pense en grande partie par défaut, Luis Enrique l'avait positionné en pointe, parce que Ramos, Colomouani, ça ne marchait pas, enfin en tout cas, ça ne plantait pas. Et aussi parce que ça permettait à Luis Enrique de mettre de décharger Mbappé de la responsabilité du repli défensif qui n'est pas son fort. Lui aussi, il l'a remarqué. Donc du coup, en le mettant dans l'axe, c'était un peu moins risqué, c'était un peu moins compliqué. Et là, en fait, en le remettant dans sa position préférentielle, donc, qui est grosso modo le demi-espace gauche, quoi, le fameux demi-espace gauche, il le remet dans une zone un peu plus confortable où il a ses repères, même si, encore une fois, moi je trouve qu'il y perd, et j'attends de voir contre une adversité un peu plus solide, il y perd beaucoup parce que ça l'isole un peu plus. Là, par exemple, la connexion avec Barcola. Alors, il y a deux actions, très bien, mais bon, Barcola, on ne l'a quasiment pas vu, quoi. Il est sorti à la mi-temps, c'est un des aspects. Et en fait, on retombe dans le débat qu'on avait eu en première partie de saison sur le système et le choix philosophique de Luis Enrique avec cet effectif-là. C'est-à-dire qu'on retombe dans un jeu qui, effectivement, permet de valoriser les qualités d'Mbappé, donc retrouver de l'espace, de la profondeur. Là, en aspirant, effectivement, en forçant au bout d'un moment les Espagnols à sortir pour essayer de le bloquer, bah, tu libères des espaces et donc lui peut retrouver la profondeur et on sait qu'il peut être létal dans cette configuration-là. Donc il y a du bon, il y a du moins bon, mais j'attends de voir encore une fois contre plus solide, quoi. Est-ce qu'il sera aussi performant ?
Il faut noter quand même que c'est encore une fois l'attaquant le plus haut de son équipe. Et deuxième chose, c'est qu'on a encore ajouté un joueur à sa gauche. Parce que même si Dembélé n'était pas complètement milieu gauche, il venait défendre, bah il venait faire venait doubler la défense sur Kubo, l'ailier droit. Donc il était Dembélé intérieur gauche et il venait, s'il fallait, s'excentrer sur le côté gauche pour défendre, pour dispenser Mbappé. Donc on est toujours dans la même logique chez tous les coachs de Mbappé, c'est-à-dire de Pochettino à Luis Enrique en passant par Deschamps. C'est-à-dire il faut quand même réussir à s'organiser pour couvrir le côté gauche. Et pour faire en sorte, alors Deschamps l'a pas trop fait sur la Coupe du Monde 2022, ça lui a coûté en termes d'équilibre parce que Deschamps a rajouté un attaquant supplémentaire. Or là, ce que fait Luis Enrique, c'est qu'il a enlevé un attaquant de fait et Mbappé joue certes, on dit à gauche, mais en fait c'est le seul attaquant de l'équipe hier. Donc en gros, il joue dans ses zones préférentielles, mais ensuite c'est lui qui va attaquer l'axe. Il a pas contrairement à ses exigences parfois, les exigences qu'il a pu avoir, c'est-à-dire d'avoir un pivot, d'avoir un attaquant fixe près de lui, maintenant on se souvient que dans les grands matchs de Ligue des Champions, au Real, souvenez-vous, quand Paris perd 3-1 le match retour, il y a deux ans avec Pochettino, Paris fait un excellent match jusqu'à la 60e minute. Et où est positionné Mbappé exactement dans cette situation-là, d'accord ? Il y a Messi et Neymar qui sont un peu à l'intérieur comme ça, et Mbappé est entre le latéral et le central adverse, et on cherche à toucher un milieu pour ensuite le lancer vite en profondeur. Donc dans les configurations de Ligue des Champions, c'est sûr que c'est une position idéale pour lui, mais il faut aussi organiser l'équipe pour le dispenser de repli défensif, pour essayer de le ménager, etc. Parce que pour l'instant, je finis là-dessus, il y a une dimension qu'il n'a pas réussi à atteindre, c'est de devenir le neuf qui peut soulager son équipe, qui parfois peut ralentir le tempo, peut être, alors je ne vais pas jusqu'à dire le Benzema de son équipe.
Ce que j'allais dire à l'image
de Benzema. Mais je veux dire être un neuf, vu sa dimension, vu son statut, vu sa qualité, il a encore, je trouve, cette petite marge de progression. Et c'est vrai qu'en jouant un peu plus sur le côté gauche, il est dispensé de ça. Mais hier, voilà, il y a 2-3 duels de haut but qu'il gagne pour faire un peu souffler son équipe, la faire remonter. Mais il y a encore des pertes de balles un peu trop faciles sur des déviations où parfois il vaut mieux un peu poser le jeu. Donc il doit encore s'ajuster là-dessus. Et sa position en fonction de l'axe et du côté gauche, elle dépend aussi de ça, je pense.
Mais ce défi-là, ce que tu décris, moi je trouve qu'il essayait justement de relever ce défi-là dans cette position de neuf, là, ces derniers mois. Alors après, il y a eu l'épisode depuis
il a progressé.
La non-prolongation. Et ouais, je trouvais qu'il a progressé et qu'en gros, il s'est dit, voilà, c'est le choix de Luis Enrique, je vais essayer d'étoffer mon bagage, de progresser là-dedans. Et je trouve qu'il a effectivement progressé de haut but, essayé de faire remonter le bloc, etc. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, ça ne plante pas à côté. Donc si tu es le seul dépositaire de la finition, ça ne peut pas marcher quelque part. Alors, ils ont des milieux, il a essayé de faire projeter Zaïre Emery, Vitinha, mais voilà, ça te met 2-3 buts, mais pas plus, quoi. Donc ça ne fonctionne pas. Non, et donc du coup, tu renverses le problème, et donc tu retournes dans la configuration qu'on a connue. Et encore une fois, tu fais un peu par défaut à nouveau le choix d'une sorte de jeu de transition aussi, assumé, parce que tu t'aperçois que sur les attaques placées, ça ne marche pas, en fait.
Là, je trouve que pour le coup, ils ont réussi hier, dans ce match retour, ils ont réussi sur les attaques placées. Parce que parfois, quand on voit un attaquant prendre l'espace, on a l'impression, mais c'est un réflexe qu'on peut tous avoir, que c'est une contre-attaque. Mais en fait,
Je trouve que Paris a bien réussi, alors grâce à la personnalité, au calme qu'a insufflé Luis Enrique, au-delà de l'aspect tactique, hein, je trouve que ça joue beaucoup, et à la personnalité, à la qualité technique de la base arrière, donc Beraldo, Nuno Mendes, cette paire-là à laquelle on peut ajouter Lucas Hernandez, je trouve qu'ils ont réussi quand même, à l'image du deuxième but, à faire tourner la balle, à attirer l'adversaire, donc ils sont en phase de possession, hein, ils sont sur une phase d'attaque placée, ils attirent l'adversaire, on fait plusieurs jeux en triangle, on franchit une ligne, on met en retrait sur un joueur face au jeu, et puis on finit par chercher la profondeur. Là, c'est un but d'école sur ce plan-là, et on l'a très peu vu.
Oui,
on l'a très peu vu cette saison. La question, c'est une meilleure équipe, est-ce qu'on peut le voir, mais je pense qu'on va évoquer ce sujet. Mais je trouve que, pour le coup, hier, on a eu au moins un aspect de ce que cherchait Luis Enrique sur les attaques placées, alors que jusqu'à présent, on avait énormément de dangers qui venaient surtout des attaques rapides, des transitions, etc. Je trouve qu'il y a eu un bon équilibre et un bon mélange entre les deux hier.
Oui, c'est ce que tu disais dans le journal ce matin. Bon, on l'a compris, ce match colle un petit peu plus à la philosophie de Luis Enrique. Et quand on avait parlé de Paris mi-décembre, on s'était demandé justement si l'entraîneur parisien devait davantage s'adapter au profil de ses joueurs. Est-ce que c'est ce qui s'est passé lors des derniers matchs de Paris, là, notamment contre la Real Sociedad?
Oui et non, en fait, je trouve qu'il a adapté ses joueurs en fait à son système, c'est plus ça, et là le choix tactique qu'il a fait, il dénature quelque part Dembélé en fait. Enfin, Dembélé, moi je ne l'ai jamais vu jouer là. Alors après, encore une fois...
Il a joué axial avec Tuchel un petit peu plus haut, mais il a joué...
Plus haut, il était avec Tuchel. Mais là, en relayeur bis, moi je n'avais jamais vu ça, et encore une fois, individuellement, je trouve que c'est un peu du gâchis. Et ça perd notamment, tu mises plus sur son explosivité, même si je pense qu'il peut bien, progresser Dembélé s'il insiste. Alors c'est une question, hein, est-ce que Luis Enrique va insister avec ce système-là?
Des petits chiffres sur Dembélé pour illustrer ce que tu dis, hein, 53 ballons touchés, 17 perdus, un seul dribble et zéro tir. Donc effectivement, offensivement, c'est assez faible.
Disons qu'il n'a pas tellement profité Dembélé de cette supériorité positionnelle et de cette liberté. Avec le ballon, il fait pas un très bon match. Hein. D'ailleurs, je trouve que hier, on voit encore l'écart qui le sépare de la grande dimension des très grands joueurs qui font la décision et qui font les matchs de Ligue des Champions. Peut-être que ça lui arrivera. Mais en revanche, il faut se dire aussi que ces ajustements-là dans la structure qu'a mis Luis Enrique en place, c'est en fonction des adversaires, en fonction de comment pressent les adversaires, comment sont organisés les adversaires. Peut-être que dans une autre rencontre, Dembélé va retrouver sa position à droite. En revanche, ce qu'on peut dire sur hier, c'est que ça acte aussi, et non pas un échec de Luis Enrique, mais au moins, ça le contredit, parce que les discours de la fin de l'été, je suis super satisfait de mon milieu de terrain, je suis satisfait, c'est-à-dire plus que satisfait, en fait, non, on voit qu'est-ce qui se passe. Il se passe que tu es quand même très content que Beraldo soit venu au club, parce que tu as un peu de personnalité pour pratiquer sur la ligne arrière pour pratiquer ta relance. Tu es content quand même du retour de Nuno. Et surtout, tu es très satisfait, comme tu le dis, de tes milieux. Mais tu en as rajouté un. Tu as dit à Dembélé de venir dans l'axe. Et il y a Hakimi en plus qui vient de temps en temps dans l'axe. Donc il faut quand même ce milieu-là qui a vécu un match correct, on va dire, hier. Il faut quand même lui ajouter... un cadre très très confortable pour qu'il puisse s'exprimer. On est loin, José en parlait il y a 2 mois et demi, 3 mois dans l'émission, on est loin d'un milieu type Luis Enrique ou qui correspondrait vraiment au jeu qu'il veut pratiquer.
Mais c'est pour ça que je trouve ça encore une fois intéressant, et puis comme tu le dis, je pense que c'est vraiment lié à l'instant T, et c'est les enseignements du match aller. C'est que là, il faut lui rendre honneur, il a été très lucide et de manière pragmatique, il s'est aperçu que ça ne marchait pas et qu'il risquait de se faire marcher dessus aussi à Anoeta, même si encore une fois la Real est passée à côté de son match pour moi, notamment physiquement, ils n'ont pas répondu présent, et donc du coup, face à des équipes qui vont mettre de l'intensité, qui peuvent te mettre de la pression. Et on sait que ce PSG-là, et notamment au milieu, où ils n'ont pas du tout le niveau, quand tu vois les gros cadors européens, ils n'ont pas du tout un milieu de terrain à la hauteur. C'est une solution, une adaptation de Luis Enrique qui, moi, me semble pleine de bon sens et qui, du coup, est une manière de trouver une solution collective. Alors, encore une fois, tu sacrifies des individuellement à la Dembélé, mais, encore une fois, ça... l'ensemble fait sens, est cohérent, et donc du coup, peut-être qu'il va insister, je ne sais pas. Et face à des grosses équipes en Ligue des Champions, c'est une des solutions possibles justement pour sortir d'un pressing, pour essayer de trouver. Alors, on verra comment ça marchera et si Mbappé sera aussi efficace, parce que c'est évidemment une des clés aussi pour que ça marche. Mais en tout cas, Dembélé peut progresser dans l'utilisation du ballon. Moi, ça a été effectivement une déception. Mais on sait qu'il a ses qualités de percussion, ses qualités de dernière passe. Et donc, du coup, moi, je suis curieux de savoir s'il va insister. Mais là, je lui rends grâce d'avoir trouvé la solution face à un problème donné. Et donc, en l'occurrence, Paris n'a pas du tout souffert. Et effectivement, comme tu disais, ça répond un peu, c'est un peu le système Luis Enrique de trouver un contrôle collectif donc, qu'ils ont réussi à trouver. Et face à une plus grosse équipe, peut-être que ça peut marcher grâce à cette idée du surnombre. Et après, bon, encore une fois, la magie d'Mbappé fait la différence.
Après, le bémol justement par rapport à ce constat, c'est quand même hier, après un premier quart d'heure où ils ont vraiment été bons, c'est-à-dire techniquement, dans l'approche mentale, et ça, c'est pas si fréquent à Paris,
oui, hein,
sur
pas
un
gagné,
début
ouais.
de match retour. Mais je veux dire, le bémol, c'est qu'après ce premier quart d'heure, il y a quand même eu énormément de déchets techniques. Enfin, c'était... Pour un match, comme le disait José, face à une équipe d'un niveau... on savait que le niveau on avait situé le niveau intrinsèque de la Real Sociedad. En plus, elle était en méforme complète depuis des semaines. Et il y a eu un déchet technique mais énorme au milieu de terrain. Paris a perdu énormément de ballons. Alors, je trouve que, pour le coup, ils ont très bien réagi à la perte. Très souvent, il y a eu une très bonne
bon
attitude,
pressing,
un très bon contre-pressing, très bonne réaction à la perte, à la fois au milieu de terrain et puis même les latéraux dans la manière de venir resserrer dans l'axe tout de suite pour enfermer le porteur. Il y a eu plusieurs récupérations avec Hakimi qui revenait comme ça intérieur ou Nuno. Mais là, on se dit, face à une équipe plus forte, tu la perds autant de fois dans l'entrejeu comme ça. Il y a danger. Alors jusqu'à présent, Luis Enrique faisait en sorte que Paris construisait uniquement par les côtés. Hein, rappelez-vous, jusqu'à présent, la construction du PSG, c'était Hakimi, Dembélé, et puis c'est tout. Hein. Donc on contournait, les milieux de tout le terrain ne touchaient pas le ballon. Là, Paris a un peu développé son jeu dans l'axe, mais moi je me dis, s'ils refont un match comme ça avec ce déchet technique-là face à un adversaire plus équipé techniquement pour le sanctionner, ça risque d'être problématique. En tout cas, on risque de voir les carences encore de cet effectif.
En sachant que ceux qui ont déçu à ce niveau-là, c'est notamment Ruiz et Dembélé qui sont des joueurs qui, pour le coup, ont une vraie plus-value technique. Donc, je me dis que ça m'inquiète un peu moins. Ils sont passés un petit peu à côté, en tout cas à ce niveau-là, avec le ballon à côté de leur match. Mais c'est plutôt pas mal pour la suite, quoi. Parce que Vitinha a fait son match, Zaïre Emery aussi, gros match au pressing.
Comment vous interprétez le but encaissé en toute fin de match? Est-ce que c'est anecdotique ou quand même un petit peu inquiétant?
Ah, la journaliste qui cherche la petite bête.
Moi, sur le coup, j'ai le sentiment qu'il y a un relâchement. Mais tout le dernier quart d'heure, j'ai l'impression qu'il y a un relâchement. Et j'ai revu le match ce matin. Et en fait, la Real rentre dans son match, vraiment. C'est vrai, je ne m'étais pas rendu compte sur le coup. Ils osent vraiment le ton. Et du coup, Paris relâche pas vraiment. Mais la Real leur rentre dedans. Et c'est là, on retombe effectivement dans une des questions. Est-ce que Paris, face à une intensité plus forte, est capable de tenir, je sais pas, j'ai pas la réponse.
Moi, je vois surtout qu'il y a eu, en gros, à l'heure de jeu, il y a Mukiele qui rentre à la place de Nuno Mendes. Donc, il y a Lucas qui passe arrière-gauche et Mukiele qui rentre axe droit. Déjà, il n'est pas très à l'aise dans ce rôle. Et surtout, la perte au niveau du contrôle de balle, là, est énorme. Entre Nuno Mendes, même si Nuno Mendes, on sent qu'il n'est pas à 100%. Mais je veux dire, la qualité, encore, on a retrouvé ses passes claquées. Quel bonheur. Quel bonheur, vraiment. Mais voilà, quand Mukiele rentre à la place de ce joueur-là, c'est vraiment Mukiele très difficile dans l'utilisation du ballon pour lui. Et ça se voit tout de suite. Et du coup, le pressing est plus facile. La balle revient plus vite. Et donc, on entre un peu dans ce qu'on aurait pu craindre en début de match. C'est-à-dire les ballons qui reviennent, une pression, des vagues de la Real Sociedad. Voilà, on entre un peu dans ce schéma-là. Ça redonne un peu d'espoir à la Real Sociedad. Et donc, Paris se prend quelques vagues. Il y a Ugarte qui rentre et qui a encore du mal. Ouais. Alors, c'est difficile de rentrer dans un match comme ça, on va dire. Mais bon, Ugarte, on n'en a pas parlé, mais on parle du milieu. On rappelle qu'il y a eu quasiment 400 millions de plus d'investis cet été, hein, parce que la saison de transition à plus de 400 millions d'euros investis, c'est quand même sympa, le storytelling de Luis Campos parfois, et que Ugarte, sa star de recrutement à 60 millions, il n'existe quasiment plus, quoi. Il n'est plus utilisé. Alors, il a encore une marge de progression, et je pense qu'il faut lui laisser cette possibilité-là. Mais voilà, Paris aussi a beaucoup perdu en contrôle et ça montre que c'est une équipe qui n'est pas complètement outillée pour faire de la possession défensive. Tu sais, comme City, ils mènent, ils peuvent faire tourner la balle, tu tournes en bourrique et comme ils ont fait, je ne sais pas si vous avez vu le match contre United dimanche, une fois qu'ils mènent, tu ne revois plus le ballon. Alors on est, évidemment, on ne demande pas à Paris d'être City, même si on pourrait, hein, vu les investissements. Mais le PSG est pas encore, est loin d'être capable de faire ça, du contrôle, de la possession défensive. Et donc, bah, il subit un peu, plus le relâchement, bah, ça donne quelques petites frayeurs.
Et il faut pas oublier que Donnarumma fait de beaux arrêts aussi. Encore une avant, fois. Hein. C'est, ouais. Ça aussi, c'est un des petits signaux orange de la soirée. C'est que même malgré le contrôle global, etc., ils arrivent toujours à se mettre en difficulté à un moment ou à un autre. C'est pas une équipe qui s'est fermée, qui s'est, ouais. qui s'est bloquée.
Mais dans la perspective Ligue des Champions, savoir que tu as un des meilleurs gardiens du monde, hein, c'est-à-dire qu'il est décisif sur sa ligne, etc. Bon, on a tellement vu le Real Madrid faire des parcours de fou alors qu'ils étaient dominés parce que Courtois ou Navas avant lui faisaient des arrêts et étaient impassables. Bon, tu te dis que ça fait quand même partie. Tu as devant un joueur de grande classe, derrière, tu as un joueur de classe quand même avec Donnarumma. Il n'y a pas beaucoup de grandeur à l'intérieur de tout ça, mais entre ce qui se passe sur le banc, la qualité de l'entraîneur sur le banc et les deux extrémités de l'équipe, bon, tu peux te dire qu'il peut quand même se passer des choses. Ils peuvent réussir ils peuvent avoir au moins un peu d'espoir, quoi, même si l'effectif n'a pas l'air super outillé pour aller loin.
Mais est-ce que vous les avez trouvés meilleurs qu'avant Noël ? Là, sur ce match-là, et peut-être
oui,
sur les
derniers.
Oui, au
moins parce qu'ils font le match qu'ils veulent faire. Et ça, ça n'aurait pas arrivé depuis le début de saison dans les gros matchs. Voilà. Okay. Ils sont venus avec une intention et ils ont réussi à exécuter leur intention. Et ça, ce n'était pas arrivé.
Après, le problème, c'est que tu n'es pas dans une dynamique. En fait, tu ne sens pas un élan irrépressible. Donc, ponctuellement, ils arrivent à être au niveau et à hausser.
Mais tu as trop d'avance au championnat, en fait, pour le prendre à fond, on dirait. Même lui, même peut-être. Cédric, on a parlé en conf de la difficulté de se motiver en championnat.
Oui, ouais, bien sûr. Mais toutes les équipes, c'est pareil. Enfin, toutes les grandes équipes, même le Bayern, même le Real, quand ils avaient 10 points d'avance, enfin, 8 points d'avance... Ouais. Tu arrives à te motiver et à te bouger un peu. Là, tu vois, les matchs de Rennes, Monaco, tu te mets en difficulté parfois tout seul. Tu ne sens pas une maîtrise totale. Et donc, clairement. Lui, dans cette idée d'un contrôle qui pourrait, hein, tu pourrais dire, bah voilà, on est dans la gestion. Mais c'est arrivé d'ailleurs à l'époque de Pochettino. On s'emmerdait un peu d'ailleurs. Mais il y avait des matchs comme ça. Mais tu sens que t'es pas dans la maîtrise, quoi. T'es pas serein. T'es jamais serein, en fait.
Oui, donc c'est difficile, et je rejoins José, donc c'est quand même difficile de dégager une espèce de ligne de progression. Parce que tu dis, en fait, les points, ils sont dissociés les uns des autres. Bah, tu regardes le match aller, le match retour, et en fait, le championnat, ils ont déjà, je sais pas, 10 ou 11 points d'avance. Tu te dis, bon, en fait, le championnat, ça sert juste à patienter. Tu sais, c'est les bandes-annonces avant le film, quoi, tu vois. Et ça, là, on est vraiment dans le cliché. Et en plus, le niveau est tellement catastrophique, il n'y a aucune équipe qui vient challenger ce PSG. Et donc, effectivement, c'est dur de dégager une ligne, ça peut être un bon déclic ou en tout cas un point intéressant pour le staff sur lequel s'appuyer. Beaucoup de séquences à étudier et à reproduire, hein, à la relance.
Et dans l'optique des quarts de finale, sur quoi il faut insister maintenant ?
Oh, ça dépend du tirage.
Quel niveau, de quoi tu parles ?
Sur quoi Paris, et Luis Enrique notamment doit travailler pour.
Moi, dans l'idéal, j'aimerais bien avoir une équipe qui dégage une certaine homogénéité dans la performance, une régularité, de la continuité. Et là, moi, je sens pas ça, quoi. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Mais ils ont cette capacité à répondre présent au jour J et lui à trouver le bon plan, ça me va très bien. Mais encore une fois, tu sens pas une équipe. J'attends pas un rouleau compresseur. Et comme disait Dan, ils ont pas l'effectif pour, c'est évident. Mais déjà, si tu arrives à voir un truc cohérent, et là, il y a tellement eu de changements et tout, même lui tactiquement avec Mbappé, toute la gestion machin, que du coup, c'est trop hétérogène. En fait, j'ai du mal à me faire une idée de ce que vaut vraiment ce pari. Et bon, ce qui fait son charme, et on se dit après tout, pourquoi pas, ça peut le faire avec un peu de chance et un peu de réussite. Mais en même temps, j'ai du mal à les cerner aujourd'hui, quoi, à cerner son véritable potentiel.
Il y a un point intéressant là, pour le staff, en tout cas une curiosité pour nous les suiveurs, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière là, sur la charnière ? Parce que Marquinhos, il était diminué, on est d'accord, il n'était pas, ouais. Il n'était pas titulaire parce qu'il était diminué. Bon, Danilo, on peut imaginer que ce soit facile de le mettre sur le banc, mais Marquinhos, en fait quoi ? Parce qu'en termes de... Évidemment, en termes de référence défensive, c'est incomparable avec Beraldo, le vécu de Marquinhos, qu'il a déjà prouvé, etc. Maintenant, sur les deux, trois dernières années, Marquinhos, on le sent un peu en dedans. Et puis surtout, la personnalité avec le ballon. Qu'est-ce que tu fais avec le ballon ? Qu'est-ce que tu oses faire ? Et c'est difficile aujourd'hui, après le match à la Real Sociedad, de ne pas penser, de ne pas faire une comparaison entre la production de Beraldo, la personnalité qu'il a affichée pour son premier match en Ligue des Champions, de ne pas faire une comparaison entre...
T'es tombé amoureux de Beraldo.
Entre Beraldo et... Non, mais au moins dans l'utilisation du ballon, oui. Après, je pense que c'est dur de ne pas tomber amoureux d'une performance pareille. Mais je pense forcément à ce qu'a fait Marquinhos à Newcastle. Le premier but, si vous vous souvenez, cette espèce de volonté de demi-transversale, un peu topée, qui arrive sur un joueur de Newcastle et ça aboutit au but. Faut pas du tout, je ne veux pas du tout jeter Marquinhos, parce que c'est un joueur qui va battre le record de matchs joués avec le PSG, qui a déjà fait des grandes prestations et des grandes saisons avec le PSG. Il ne faut pas l'oublier, hein, le Final Four. Marquinhos, il est là, il a un rôle essentiel. Enfin, il est dans les 5 joueurs les plus importants de l'équipe de loin. Mais qu'est-ce que tu fais là après un match comme ça? Évidemment, tu te demandes si Beraldo il peut tenir face à des gros défenseurs. Mais là, Beraldo, il va dire attends, tu me sors de l'équipe, j'ai fait la panoplie complète du défenseur rêvé pour Luis Enrique. D'ailleurs, si Pep était devant son écran là, il a dû kiffer comme nous. Hein. Enfin, je veux dire, c'est bon, sûr.
Après, Skriniar a encore quelques semaines à l'infirmerie.
Ouais, non, mais Skriniar,
et je pense que le débat
pas.
C'est plutôt entre Beraldo et Lucas, de toute façon. Mais moi, pour moi, en fait, il y a un élément très précis.
Ah, tu penses que Beraldo et Lucas ?
Ouais, je pense que ça se jouera entre eux. Pour un élément très précis, c'est en fait le jeu de tête. Donc après, ça, si c'est pas Marquinhos, ça sera Danilo. Mais en fait, ça manque trop de.
Bah oui,
et là,
défensivement, oui.
Face à la Real, c'était pas un souci majeur.
Alors qu'ils étaient censés être bons de la tête, la Real.
Mais face à d'autres équipes, je pense que ça sera pas
donc
possible.
Donc tu penses
en fait.
C'est Marquinhos avec à sa gauche, voilà. Soit Lucas, soit Beraldo.
Voilà, je pense que ça se jouera.
Moi, ça m'emmerde de me passer de Lucas
et
dans les
duels. Et Beraldo dans les
même.
Duels, c'était léger, quoi, pour l'instant.
Oui, mais est-ce que tu as envie de te passer de Lucas Hernandez dans la Ligue des Champions quand il faut aller au duel, bastonner
un
peu, et puis même dans l'utilisation du ballon.
Je pense qu'en fonction de l'adversaire, ça se jouera entre deux. Quoi.
Et alors justement, en parlant de l'adversaire, bon, évidemment, on ne connaît pas encore tous les qualifiés pour les quarts de finale, mais selon vous, est-ce que tactiquement, il y a une équipe qui conviendrait plus que les autres aux Parisiens?
Le vainqueur de Dortmund-PSV. Voilà, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que peut-être qu'avec l'équipe qui est peut-être l'effectif le plus faible ou pas loin des 10 dernières années, tu peux peut-être aller en demi, un peu comme ça. Ouais. Tu te qualifies, là, ils sont qualifiés pour les 8e à l'arrache. Tu finis deuxième de poule, tu tapes la Real Sociedad en premier de groupe alors qu'il n'y a que des cadors. Et imagine, tu croises le vainqueur de Dortmund PSV parce que c'est tirage intégral là sur l'écart. Ça peut être marrant, okay, mais
bon,
après.
Bon, si c'est pas Dortmund ou le PSV, vous n'êtes pas évidemment pas très optimiste.
Ouais, moi, je pense qu'il y a match contre tout le monde, à part. City, c'est injouable pour moi.
Et le Real,
ouais. Et le Real est au-dessus, ouais. Mais après, je suis vraiment très curieux de voir le Bayern, les retrouver avec Tuchel. Arsenal, ça serait intéressant. Au milieu, ça serait compliqué, mais ça serait intéressant.
Parce qu'Arsenal
a perdu 1-0 contre Porto à l'aller.
Mais oui, ça va être intéressant. Et ce qui est bien. Par rapport à l'année dernière et avec tout le respect qu'on a pour Christophe Galtier, ce qui est bien, c'est que là, on a un coach et un staff qui est habitué à ce degré de compétition, qui est habitué à produire des plans de jeu pour se qualifier dans des matchs à élimination directe, qui l'a déjà fait, qui a la tranquillité d'esprit et l'expérience pour faire ça. Ça ne garantit pas tout, hein, mais c'est déjà un prérequis important, il me semble.
Et qui a la capacité de faire des choix. Ça aussi, faut reconnaître que Christophe Galtier a peut-être pas fait ce qu'il a voulu faire, comme Pochettino a peut-être pas fait ce qu'il voulait faire pour des raisons.
Oui, mais Pochettino, malgré ce cadre-là, a réussi à faire des grandes performances, des très grandes performances en Ligue des Champions.
Oui, mais je parlais des choix sportifs, ouais. Tu vois.
Mais les choix sont peut-être un tout petit peu plus simples à faire maintenant, ouais. Que Messi et Neymar.
Ah bah en tout cas, oui. Et puis quand tu t'appelles Luis Enrique, c'est un peu plus simple aussi, quoi. C'est un peu plus légitime.
Bon, bah en tout cas, on a hâte de savoir contre qui le PSG jouera en quart. Réponse le 15 mars pour le tirage au sort. Merci beaucoup, José Barroso et Dan Perez. Dan, à très bientôt. Et José, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'entre elles. Di Maria, hein, l'ancien Parisien qui brille à nouveau du côté du Benfica Lisbonne. Merci aussi à Léa Léostic pour la réalisation. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite.